Bienvenue au podcast Upica, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est le retour de Elissa Legault sur le podcast. On avait reçu Elissa au tout début du Upica podcast et elle venait tout juste d'avoir une super performance au marathon d'Ottawa. On avait parlé de ça. Et là, dernièrement, Elissa m'a écrit, en fait, parce qu'elle avait un sujet qu'elle aurait aimé aborder sur le podcast, parce que dans les dernières années, ça a été plus compliqué depuis, en fait, la dernière fois qu'on s'est parlé, où est-ce que Elissa a eu des super performances, elle a amené un genre de buzz autour d'elle pour peut-être les Olympiques de Paris, et tout ça l'a mené dans une espèce de, peut-être, spirale qui l'a mené jusqu'à une fracture de stress assez grave qui l'a mis en inactivité complète pendant 3 mois. Et ce 3 mois-là lui a permis de vraiment réfléchir à plusieurs aspects de sa pratique sportive. Et elle a finalement réalisé que ses blessures étaient liées à une sous-alimentation. Et on parle de ça. Vous le savez, sur le Pika Podcast, ça fait longtemps, ou du moins ça fait plusieurs podcasts dans lequel on parle de l'importance de bien alimenter sa performance, eh bien là, on parle à une athlète de niveau international qui a vécu, c'est quoi, le manque d'alimentation, a vécu en fait, qu'est-ce qui peut se passer, le pire qui peut se passer carrément si tu n'alimentes pas bien ta performance. On parle de ça, on parle de sa nouvelle passion pour le triathlon, et son objectif pour cet été, qui est un demi-Ironman. Évidemment, vous savez que c'est également mon objectif à moi, donc on peut connecter là-dessus. Mais je crois que c'est vraiment une conversation extrêmement importante. Un message que Elissa porte, qui est un message que je crois qui doit être entendu le plus possible. Et j'ai l'impression que si cette tribune-ci peut servir à ça, ben ce sera déjà ça de gagné. Donc, sans plus attendre, en fait. En fait, non, je vais vous laisser attendre encore. Parce que tant qu'à parler nutrition, on va parler de Upica qui présente ce podcast-ci. Upica, c'est tous vos besoins en nutrition sportive spécifiques au sport d'endurance. Le Upica Endurance et Endurance Plus pour pendant l'effort. On a le Upica Carb Boost, qui est notre formule de glucides qui permet d'atteindre plus facilement vos cibles de nutrition. On en parle justement pendant le podcast, des cibles de nutrition importantes durant les efforts d'endurance. Et on a le Upica Recup, qui est le produit optimal pour permettre à votre corps de récupérer après les efforts pour aller chercher les adaptations nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Utilisez Upica Podcast comme code promo pour 10% de rabais au upica.ca. Encore une fois, c'était vraiment une belle conversation, avec un message extrêmement important. Puis je vous souhaite un bon podcast. Fait qu'on va juste continuer notre discussion comme on l'avait. Fait que c'est vrai qu'il n'y a pas l'équivalent du tapis roulant pour la piscine.
Non.
Fait que tu peux pas, genre, non plus avoir cet échappatoire-là. Faut tout le temps que tu fasses avec le bain libre, avec les gens, avec les couloirs que t'as, avec les heures. Faut que tu respectes ça.
Ouais.
C'est nouveau pour toi, quand même, là.
Oui. Ouais. Ben, tu sais, dans le temps, ça fait un bout, là. Je pense que j'ai arrêté dans mon jeune temps, j'ai arrêté à 15 ans, je pense.
De nager.
Fait que, puis tout ça, c'était avant, c'était organisé par un club de triathlon. Fait que moi, j'avais pas à penser à quand je me pointe à la piscine, puis les heures, puis tout. C'était organisé pour moi. Là. Mais là, oui, c'est nouveau. Ouais.
Mais je t'ai trouvé vraiment bonne, en tout cas, parce que hier, pour ceux qui écoutent, on est allé nager ensemble pour que je te regarde un peu de quoi ça a l'air, pour que je te donne 2-3 conseils. Mais je t'ai trouvé vraiment bonne. Là. Genre, tu pars pas de loin tant que ça, tu sais. T'étais déjà capable, puis c'est ça que j'expliquais dans le podcast natation que j'ai fait sur le Upica Podcast. Tant que t'es pas capable de nager lentement, à basse intensité, ça sert à rien de faire rien d'autre, tu sais, que de travailler ta technique puis de t'assurer d'être capable de le faire. Ça sert à rien de faire de la vitesse si t'es pas capable de nager lentement, comme c'est inutile, tu sais. Fait qu'au moins, t'es capable de nager à basse intensité longtemps, fait qu'à partir de là, tu sais, le reste est pas mal plus facile à aller chercher.
Oui, oui. Juste des petits trucs que tu m'as donné, puis je pense que
ouais.
Ça va être mieux.
Puis une autre affaire, comment on remarque, moi, c'était chez les jeunes que je coachais, quand, tu sais, j'ai coaché comme pendant 12 ans à plusieurs niveaux, puis rapidement, tu vois quels jeunes ont des aptitudes sportives au-dessus de la moyenne, parce que tu donnes un commentaire, puis la rétroaction est directe, là, tu sais. Puis hier, c'est ça qui s'est passé, tu sais, je t'ai dit, ton menton est trop haut, puis la longueur d'après, la position était comme réglée, pas à 100%, mais au moins tu y as pensé et tu as compris ce que je voulais dire par ça. Fait que ça, souvent, comme l'espèce de capacité spatiale dans l'espace des gens, ça, c'est quand même une preuve de gens qui ont un background athlétique ou du moins qui ont une prédisposition athlétique.
Oui, je pense que c'est ça. Je me questionnais aussi si avec plus tu fais du sport, plus tu apprends à connaître ton corps et à savoir un peu... Comment bouger dans l'espace.
Ouais.
Puis,
Fait que, nouvelle... beaucoup de changements depuis la dernière fois. Ouais. On t'a reçu comme si on était plusieurs dans ce projet-là. Là. Je t'ai reçu sur le Upika Podcast, je pense, dans les 5 premiers épisodes, si je me trompe pas.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Puis là, on est rendu au-dessus de... Je ne sais même pas, au-dessus de 50, au-dessus de 60 peut-être. Là. Mais beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie depuis ce moment-là.
Oui.
Peux-tu m'en parler un peu? Tu peux prendre cette question-là à partir de plein de bouts, parce que je sais que quand on s'est parlé, t'avais encore, ben tu travaillais à temps partiel, tu courais, puis là tu te disais, je sais pas trop, j'aimerais ça mettre peut-être plus de temps dans l'entraînement, puis tu savais pas trop vers où ça allait. On venait de faire le marathon d'Ottawa, v'là deux...
Ça va faire deux ans,
au marathon d'Ottawa, prochain marathon d'Ottawa, ça va faire deux ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces deux ans-là pour les gens qui t'ont pas suivi? Puis je vais juste remonter ton micro une seconde.
Comme ça?
Ouais.
Ben, il y a eu beaucoup, effectivement, de changements, d'essais de ma part, beaucoup de remises en question. Ben, c'est ça, t'as dit dans le fond que je me questionnais à savoir si je réduisais encore mon travail, si je le quittais complètement.
C'était ça à ce moment-là.
Tout l'été, en fait, après le marathon d'Ottawa, j'ai beaucoup pensé à quitter mon emploi, puis je l'ai finalement fait. En septembre, si je ne me trompe pas.
Mm-hmm.
Fait que ça a été vraiment une belle expérience aussi de vivre un peu la vie d'athlète à 100%.
Ouais.
Je t'ai reçu ma soeur aussi. Là. Mm-hmm. Ça fait des années que je regarde ma soeur qui le fait.
Fait ça.
Ouais. Puis au début, je le comprenais pas trop. Puis plus j'aimais le sport, plus je me disais, hey, je suis un peu jalouse. Moi aussi, j'aimerais ça être capable de faire ce qu'elle a fait. Mm-hmm. Puis de juste pouvoir me concentrer sur le sport.
Puis c'est pas comme si. T'avais pas le talent pour le faire, tu sais, ou t'avais pas le niveau pour le faire. Il y avait sûrement du monde qui le faisait qui avait pas ton niveau, carrément, là, tu sais.
Ben, tu vois, tu dis ça, puis moi, je me sentais encore un peu imposteur à ce niveau-là. Puis, rapidement, après avoir quitté mon emploi, j'ai fait le demi-marathon de Valence.
Ouais.
Puis, à ce moment-là, j'ai fait mon... Ben, encore à ce jour, j'ai fait mon meilleur temps sur le demi-marathon, puis ça l'a donné que c'était le record du Québec.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, c'est un petit peu con, mais ça a comme un peu validé à ce moment-là mon choix. Je suis comme, ah, tu sais, j'ai réussi à faire un meilleur temps. Puis encore là, l'effet de comme pas travailler était pas là parce que c'était comme un mois et demi après. Fait que c'est sûr que...
Première Canadienne au marathon d'Ottawa, c'était pas assez pour te dire que t'étais
Deuxième Canadienne.
C'était pas assez pour te dire que t'étais bonne. Fait que fallait que tu fasses le record du Québec sur demi-marathon pour te dire, ah, ben peut-être que j'ai ma place finalement à faire du sport à temps plein.
Ouais, ben écoute, ça a comme validé un peu mon choix. Puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller en Équateur avec ma soeur pour m'entraîner en altitude. Fait que ça aussi, c'était cool parce que quand on s'était parlé, je venais d'aller faire un camp à Flagstaff, mais je travaillais en même temps. Fait que c'était tout le temps de balancer un peu les deux. J'essayais de faire une sieste l'après-midi. Ouais. Je prenais une pause de travail. Fait que là, tu sais, ça a été vraiment un camp focus sur... l'entraînement, sauf que j'ai rapidement réalisé que la course à pied... Ah. En fait, moi, je mettais mon idée d'un athlète sur ce que je connaissais un peu le plus, puis c'était ma soeur. Puis ma soeur, c'est une triathlète. Le triathlon, c'est pas la même chose que la course à pied, dans le sens que t'as beaucoup plus d'heures l'entraînement en triathlon, puis tu peux en faire plus.
Tu peux en faire plus, puis c'est... Je vais te laisser continuer parce que je sens que tu t'en vas dans cette direction-là aussi. Là.
Ben, c'est ça. Fait que,
parce que peut-être challengeant quand même que tu vois ta soeur qui est capable de mettre en camp d'entraînement 20-25 heures.
Oui.
Puis toi, tu peux pas parce que c'est impossible de courir 20-25 heures.
Là, ben, c'est ça. Puis tu sais, j'ai fait ma plus grosse semaine à vie en termes de kilomètres, puis probablement en heures aussi. Quand j'étais en altitude, j'ai fait 198 kilomètres.
fait, ce deux-là, tu fais « Ah, c'est vraiment que t'es plus capable quand tu fais pas le deux de plus. »
Non, ben, en fait, c'est que je suis perfectionniste à tous les niveaux, puis ce perfectionniste-là m'a permis aussi de dire « Bon, mon plan m'a mené à là, puis le 200 km sera pour une autre fois.
Mm-hmm. »
Mais il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Pourquoi t'es pas sorti pour genre 2 km? » Mais je sais comme...
198, c'est vraiment beaucoup de kilomètres.
Oui, en altitude en plus.
C'est... Moi, mes plus grosses semaines, ma plus grosse semaine, je l'ai tapé à 144. Puis je me suis littéralement... C'était dans une... Je me préparais pour le marathon d'Ottawa l'année passée. Puis c'est après cette semaine-là que j'ai cancellé ma préparation parce que j'ai fait... Je suis plus capable de marcher. J'étais plus capable de marcher. Je me suis blessé au point où est-ce que ma blonde voulait qu'on aille se promener dans le Vieux-Québec. Je sortais de chez nous, je descendais le trottoir. Puis je faisais... Je peux pas marcher. J'avais mal, j'étais pété de partout. Oui. 144 km, là, c'est pas 198.
Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il y a une progression aussi. J'ai passé par mon premier marathon, ben mon deuxième, là, que je me rappelle un peu plus de ma préparation. Je pense que ma plus grosse semaine, c'était une semaine à 110. Là.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, il y a une progression à tout. Mais c'est un peu en lien avec le sujet pourquoi je t'ai demandé de vouloir venir discuter le podcast. Puis je crois de plus en plus que less is better, puis que notre corps a une limite, puis il faut le respecter. Puis. On dirait qu'on voit de plus en plus que... Ça me fait penser... j'écoute pas mal tous tes podcasts que tu fais sur Upika. Puis ça m'a fait penser... Je pense que c'est avec le gars qui a fait en 100 jours, là, le Ironman.
Danovic.
Oui. Vous avez, t'sais, vous disiez que c'était de plus en plus populaire, mettons, l'entraînement, puis que c'était une genre de mode, mettons. Ouais. Puis ça, je trouve ça bien. C'est juste que, moi, mon opinion, c'est plus... Il y a des limites aussi à avoir, puis des étapes à franchir, puis de... Tu sais, on a comme tous nos modèles, puis tout, mais des fois, c'est des athlètes élites qui font ça de leur vie, que ça fait des années d'expérience qu'ils ont. Puis je pense que c'est un peu ça qu'il faut faire attention, puis de se laisser emporter. Puis moi-même, j'ai été victime de ça. Je suis tombée athlète à temps plein, j'avais le temps de m'entraîner, je voulais toujours en faire plus, puis je m'étais jamais blessée, fait que je me disais, je suis capable d'en prendre.
Ouais.
Puis
là, toi, ce que t'as dans ta tête, c'est les Kenyans, puis les Éthiopiens, qui eux autres, on sait qu'ils, genre, ils font 220, 230 kilos à toutes les semaines.
Mm.
Mais eux autres, ils font ça depuis qu'ils ont 12 ans. Là.
Oui, t'sais? C'est ça. Exactement. Des fois, c'est juste, mettons, les filles aux États-Unis qui sont capables de le faire aussi, mais des fois, c'est juste une équipe aussi qui ont autour d'eux, puis... des conditions différentes, puis peu importe. S'ils se font
faire un massage après toutes les courses, il y a moins de chances qu'il y ait des tensions qui s'accumulent.
Exactement. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a... Il y en a qui sont capables d'en prendre plus que d'autres aussi. Je pense que c'est de connaître ses limites. Mm-hmm. Mais, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ma plus grosse semaine d'entraînement à vie en Équateur.
Ça a bien passé?
Ouais, honnêtement. Mais c'est ça l'affaire. C'est que je pense que ça apparaît pas tout de suite. C'est ça qui est terrible. Ça peut prendre des mois, là, avant que... Puis c'est ça, j'ai eu deux athlètes que je coach qui sont partis. Avec la clinique du coureur, si je me trompe pas, au Kenya. Puis je leur ai dit, j'ai comme fait attention, vous allez pas sentir tout de suite la fatigue de l'altitude, mais ça peut être des mois plus tard, fait que de pas pousser trop aussi au début, ta première expérience, etc. Fait que oui, sur le coup, ça a super bien passé, puis tout est beau, tu penses que t'es capable de tout prendre ça, puis que ça se passe bien. Puis dans le fond, je préparais le marathon de Houston à ce moment-là, puis j'avais quand même des gros objectifs. J'avais quitté mon emploi. Il y avait eu comme une vague de comme « Ah, ben Elissa vient de faire le record du Québec. Elissa est arrivée deuxième au marathon d'Ottawa. » Fait qu'Elissa, ben la suite logique, ça serait qu'elle essaie de se qualifier pour Paris. Cette idée-là des Olympiques m'était venue assez tôt par un massothérapeute qui me massait, dans le fond.
Mm-hmm. Puis, il venait pas faire la cuisine chez vous, là.
C'est ça. Puis, lui, il avait vu un potentiel en moi au début, là, avant que je commence à faire des gros chronos plus impressionnants, si je peux dire. Puis, il m'avait mis cette idée-là un peu dans la tête, mais moi, je disais, bon, oui, peut-être j'ai un talent, mais à ce point-là, je pense pas.
Ouais.
J'y croyais pas trop, puis on dirait que c'est comme un peu la pression publique ou l'engouement public qui a fait que, bon, ben c'est comme ça la suite logique. Faut que j'essaie de me qualifier pour les Olympiques. Mm-hmm. Puis c'était pas les Olympiques de 2028, c'était les Olympiques de 2024 qui s'en venaient assez vite, mettons. Puis il y avait quand même un gros range, là. C'est le standard pour Tokyo, c'était 2,29,30 pour les femmes, mais pour Paris, c'était rendu 2,26,50.
Ouais.
Puis là, ils viennent de sortir les standards pour les championnats du monde de 2025, puis c'est 2,23 quelque chose. Là,
c'est agressivement plus rapide que 2,28. Là.
Oui, c'est ça. Fait que j'allais à Houston sans mettre extrêmement pression parce que la fenêtre de qualification venait juste d'ouvrir. Fait que je me disais, bon, ben, si c'est pas là, j'ai quand même d'autres shots. Là. Mais j'espérais quand même de passer en bas de 2h30. Là. Ça me donnait déjà un jeu sur comme ma prochaine performance. Puis, c'est un autre des aspects que je voulais discuter, mais j'avais pas assez pratiqué ma nutrition à l'entraînement. Ouais. Fait que j'ai eu extrêmement des problèmes digestifs pendant la course, puis ça m'a complètement ennuyé. J'ai vraiment eu...
Une fois que ça arrive, il n'y a rien à faire.
Ah non, c'est terrible. Fait que je pense que les derniers 15 kilomètres, j'ai géré des problèmes de digestion. Ouais. Ça a été vraiment ma pire expérience, je pense. Ouais.
C'est extrêmement pénible.
Ouais.
Puis est-ce que c'est... Marathon Houston, il est à quelle période de temps?
Janvier.
Fait que quand t'étais venu courir avec nous à Québec, là, avec Guillaume puis Charles, je pense, là,
c'est juste après, si je me trompe pas. Ouais.
Okay. Fait que c'est après, parce que je me rappelle que t'avais une attention vraiment particulière pendant cette long run-là. On avait fait, je pense, 25 kilos, 4,45.
Ouais.
Puis t'avais une attention particulière à comme manger, là. Ouais. Alors que c'était pas, on n'était pas parti pour 3 heures, là, tu sais, mais c'est comme on fait un 25 kilos, puis je pense que t'avais pris comme 3 barres exactes pendant la première heure. J'étais comme, OK, là, elle travaille pour de vrai, là. Elle travaille fort sur son affaire, là.
Oui, ben c'est ça. C'est mon côté perfectionniste, puis j'ai vu qu'elle...
Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, t'as pas le choix, là,
oui,
tu sais.
Oui, il faut vraiment, là, surtout... Je pense qu'il y a des gens qui le tolèrent un petit peu mieux que d'autres, je crois. Fait que, mais dans mon cas, c'était vraiment pas le cas. Fait que j'ai décidé que c'était ça qu'il fallait que je travaille, parce que... Puis, tu sais, j'aime pas ça parler quand j'ai pas réussi à accomplir quelque chose, mais je sentais qu'à Houston, j'étais prête pour mieux que ce que j'ai accompli. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai arrêté 2 fois à cause de mes problèmes de digestion pour la toilette. Puis, tu sais, tout l'aspect mental qui rentre, puis tout.
Une fois que ça te sort de ta course, là. Ouais.
Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, si je peux gérer ça, je pense que je suis capable de faire une performance, que je vais être contente. Fait que c'est pour ça que j'avais commencé à travailler ma nutrition, mais encore là, c'était difficile pour moi, là. Ça a toujours été difficile de le pratiquer. J'ai vraiment beaucoup de problèmes à prendre des glucides à l'effort. Fait que ça, puis j'ai eu un changement de coach, en fait, avec le marathon de Houston. Fait que quand on s'est vu, je venais probablement juste de changer de coach.
Une raison principale, on n'est pas obligé d'embarquer là-dedans, si tu veux pas, là.
Je pense que ça m'a jamais gêné d'en parler, là. Puis mon ancien entraîneur, on a gardé une bonne relation quand même aussi. C'est plus que c'était comme un petit papa, mon ancien entraîneur. Puis j'avais l'impression. Ben non. En fait, je voulais être plus poussée. Puis je voulais voir mon plein potentiel. Puis j'avais l'impression. Lui, dans le fond, il coach plus des adolescents sur la piste. Fait que j'avais l'impression qu'au niveau entraînement marathon, tu sais, des fois, j'allais voir, mettons, ce que Natasha Wodak, là, la championne canadienne, elle faisait, puis j'y proposais des entraînements, puis ça, c'est tout à son avantage, parce que souvent, il disait « Ah, ben oui, on va essayer ça », puis tu sais, il était très ouvert, il était pas orgueilleux. Comme,
mais l'initiative n'est pas de lui, mettons, puis le plan n'était pas structuré avec ça en tête.
Ben, non, c'est ça. Moi, je voulais essayer d'aller un petit peu, d'en faire plus. fait que j'ai changé de coach. Je suis allée avec Reed Colset. Je pense que, dans le fond, tu avais reçu Anne-Marie Comeau.
Oui.
Puis, dans le fond, Jean-Philippe
aussi. JP s'entraîne avec lui,
oui. Fait que les deux sont coachés par lui.
J'ai un gars genre à 2,14 au marathon, là, je pense.
Je pense même 2,10, je me trompe pas, c'est mental, fou. Puis, l'expérience olympique. Puis, c'est parce que c'était ça aussi, mon ancien entraîneur, tu sais, il savait pas exactement... C'était quoi tous les critères qu'il fallait accomplir pour se qualifier, les bons choix de course et tout. Fait que c'était un peu ça aussi, je voulais avoir un meilleur appui à ce niveau-là. Donc, j'ai changé pour Reed, puis ça s'est super bien passé. C'est une personne vraiment attentionnée, qu'on avait des bonnes discussions, toujours prêt à m'aider et tout. Sauf que les entraînements étaient vraiment plus difficiles. C'est ça que je voulais.
Ouais.
C'est vraiment ça que je voulais, mais c'était vraiment un game changer au niveau des entraînements. J'ai fait ma plus grosse séance à vie, je me rappellerai toujours. C'était un 8 x 3 km. Puis j'étais partie juste un peu en haut du pace demi-marathon. Puis j'avais fini en bas de mon pace demi-marathon. Fait qu'un 24 km de travail.
C'est débile, ça.
Ça m'avait donné 37 km.
Ça n'a pas de sens, ça.
À comme 3,50 en général, ça avec warm-up, cool-down, les jogs. j'avais fini, j'étais complètement pété, très fière de ma séance, mais complètement pété.
Mais ça, ça te coûte tellement cher, là. Ça te coûte tellement cher.
Ouais.
C'est fou, là. Ouais. Parce que le repos, la récupération que ça te prend pour permettre à cette séance-là de bien créer les adaptations, là, c'est... Je veux dire, tu cours un demi-marathon, dans le fond, là.
Ouais.
C'est comme... Tu sais, après un demi-marathon, on te dit « prends 2 semaines off ».
Ouais.
Puis là, j'imagine, c'est un bloc dans un bloc, puis t'as un entraînement, t'as un tempo dans 3 jours, là.
Genre, je sais qu'on avait comme... Tu sais, j'avais eu un peu plus de repos avant, un peu plus de... Tu sais, on savait que c'est une séance clé, mettons, mais jamais comme une race, mettons, là.
Ouais.
Fait que, ouais, ça m'avait marqué vraiment beaucoup parce que j'avais trouvé ça extrêmement dur, mais j'avais été très fière parce que j'avais
exécuté
vraiment bien, là.
Ça met en confiance, c'est sûr,
oui,
là.
Oui, vraiment. Fait que c'est ça, j'ai eu ce changement-là. Il m'a permis de faire un PB sur 5 km. Ben, ça faisait longtemps que j'avais couru un 5 km aussi, mais j'avais été agréablement surprise du temps que ça m'avait donné. Fait que j'étais comme, tu sais, ça fonctionne. Puis après, il y a eu les championnats 10 km à Ottawa. Il y a eu beaucoup de chaleur. Moi, j'ai mal géré ça. Ouais. J'ai mal géré ma course, en fait, à ce niveau-là. Puis ensuite, il me fallait que je fasse un championnat canadien pour les critères élites pour la Fédé du Québec. Fait que j'étais allée à Winnipeg, puis j'allais là, c'était vraiment pas dans la planif, on l'a comme décidé dans la minute parce qu'on a réalisé qu'on avait besoin de ça, puis finalement, c'est là que je réalisais, tu sais, quand tu te mets pas de pression, je suis partie, j'avais l'impression de faire un workout avec des amis, puis finalement, tu sais, j'ai gagné, fait que c'est ça, j'ai vu, j'étais comme, hey, j'étais zéro stressée sur la ligne de départ, puis finalement, j'ai super bien fait.
Ouais.
Fait que des fois, je me disais, je me mettais trop de pression, puis c'est là que ça peut...
Puis même... Tu sais, là, je veux pas... Comme... Le stress, c'est du stress, là.
Ouais.
Que ce soit mécanique ou mental, puis que ce soit du stress sur tes articulations, sur tes tissus, ou que ce soit du stress dans ta vie de tous les jours. Mais j'ai l'impression que si t'es stressé, probablement que t'es moins lousse au côté digestif aussi, là.
Oui, totalement. C'est une impression
que j'ai, là. Quand tu te mets vraiment de la pression, peut-être que t'as plus mal au ventre facilement. Là, oui. Je dis ça, puis... Peut-être qu'il y a des études sur ça. Je veux pas m'avancer. Je fais juste parler en mon propre nom, là. Puis je veux pas dire que c'est scientifiquement prouvé, mais c'est une impression que j'ai.
Ben, ma nutritionniste me l'avait dit. Elle a dit, tu sais, t'essaies de pratiquer, mettons, un certain... Mettons, pour moi, un challenge, c'est comme, mettons, 70-75 grammes à l'heure. Puis de dire, OK, ben en compétition, je vais faire 80 ou 85 % de cette quantité-là parce qu'il y a tout plein d'aspects qui rentrent en jeu, dont le stress du jour de course, dans le fond. Ça fait vraiment du sens. Fait que j'ai couru Winnipeg, puis j'étais censée faire le marathon de Berlin pour un deuxième essai de qualification. Puis finalement, 2 jours après le demi-marathon de Winnipeg, j'ai un appel du entraîneur-chef de Athletics Canada qui me demandait si je voulais joindre l'équipe pour les championnats du monde.
Oui.
Fait que là, j'étais comme, ben là, c'est sûr que oui, tu sais, même si ça mettait en jeu un petit peu ma qualification pour les Olympiques, je me dis, je sais même pas, je vais aller faire les Olympiques, mais ça me permet au moins de...
Mais ça, c'est une équipe nationale.
C'est ça. Fait que j'avais accepté, sauf que ça a fait en sorte qu'au lieu d'avoir une semaine de récup après Winnipeg, que je courais, je pense, pas pendant comme 4-5 jours, juste pour me laisser récupérer, on a embarqué tout de suite sur la préparation au marathon, parce que je pense qu'on avait comme un 5 semaines de moins que Berlin. Puis ça a pris 1 mois, puis mon tendon d'Achille a pas suivi. Non. Fait que ça a été ma première vraie blessure qui m'a empêchée de courir, parce qu'avant, j'avais toujours eu des petites affaires qui sortaient, mais sans que je doive arrêter plus que, mettons, 2 jours de course.
Ouais.
Ça, j'ai arrêté, je pense, 4-5 semaines, avec l'elliptique au moins, mais j'ai dû me retirer assez rapidement de l'équipe parce que je voyais que ça allait pas marcher.
Ouais.
Mais on dirait que j'ai pas assez appris de cette blessure-là parce que quand je suis revenue assez difficilement.
Est-ce que quand ça arrive, tu te dis, t'essaies de trouver une raison pourquoi ou tu te dis, comme une blessure de course, je guéris puis je repars, là?
Ben, de mon côté, c'est que j'ai toujours géré mon tendon d'Achille droit dans le sens qu'il était toujours sensible. Mais jamais pour m'arrêter de courir. Puis j'avais trouvé des petites techniques pour que ça marche. C'est souvent si je faisais des extrêmement longues sortie, des fois le lendemain, c'était un peu plus sensible, ou quand je mettais les spikes sur la track, ben là, ça l'engage plus les mollets. Fait que ça aussi. Fait que quand c'était mon gauche qui est sorti d'un coup, je me suis dit, depuis des années, il compense, ou comme on dirait, je me suis pas questionnée, puis j'aurais peut-être dû. Fait que non, effectivement, je me suis comme pas. J'ai essayé de régler ça, puis j'avais tellement en tête. C'est ça l'affaire, c'est que j'avais tellement en tête. J'avais des œillères, puis je me disais, faut que je fasse le standard olympique.
Ouais.
Faut que je me remette dedans. Puis là, c'était Valence, en décembre. Fait que je suis revenue assez rapidement.
Fait que c'est de patcher le... c'est de passer la mop sur le plancher à place de fermer l'évier. Ouais.
C'est comme, est-ce que ton corps va bien pour vrai? Ouais. Ou c'est comme, OK, là, c'est réglé, on passe à d'autres mm-hmm. choses, puis on continue l'objectif qui était la qualification. Fait que... Puis c'est ça, j'ai eu, je pense, entre autres, à une discussion que j'avais avec un ami de course qui me dit, ah, mais tu sais, après que je me sois blessée la deuxième fois, il dit, ah, mais je trouvais que tu avais revenu vite.
De Winnipeg, là.
Non, de ma blessure. OK, de ta blessure, du cordon. OK. Ouais, et comme, il me semble que t'as pas progressé assez, mettons. Je sais comme, ah, bon. tu veux pas. Ah, t'aurais dû me le dire, mais en même temps, je l'aurais-tu écouté.
C'était pas sa place pas de dire sûr, ça. Pas sûr, je pense pas.
Fait que. Je suis revenue, je dois être revenue en septembre environ de ma blessure, là, pour vrai, là, une fois que j'avais fini un peu la marche-course et tout. Puis ça n'a pas été long, là, la forme revenait assez rapidement, puis j'étais contente de ça. Puis j'ai fait une autre bonne séance début octobre. Je fais la séance, c'était la semaine qui faisait un peu plus chaud que normal. Puis ça m'a marqué juste parce que, dans le fond, quand j'ai commencé mon cool-down, je me sentais vraiment déshydratée. J'avais une crampe dans le ventre. Puis ça n'a pas été long que j'ai commencé à avoir une crampe dans le fessier. Puis je pensais juste, c'est ça, que j'étais déshydratée. Puis là, en après-midi, ça a été de pire en pire. Puis je commençais à avoir vraiment mal dans le bas du dos, le fessier. Ouais. Fait que là, j'étais comme, je pense pas que c'est juste la déshydratation. Fait que là, je parle un peu avec ma soeur. Puis elle dit, ah, c'est peut-être ton sacro-iliaque qui est coincé, dans le fond. Fait que là, j'essayais de prendre un rendez-vous rapidement avec un chiro. Puis j'ai réussi à en avoir un peut-être 3 ou 4 jours après. Puis ma soeur, elle m'avait dit, elle avait déjà eu le sacro-iliaque qui était coincé. Fait qu'elle me dit, bon, ben habituellement, moi, ce qui fonctionne, c'est qu'il me le débloque, puis le lendemain, je suis correcte, tu sais. Fait que pleine d'espoir que ça va passer. Finalement, écoute, ça a pris 3 semaines avec des rendez-vous à chaque, comme 4 jours au chiro. Fait que je dois avoir vu comme le chiro 4 fois. Ça s'améliorait pas.
Ah ouais.
Puis j'étais incapable de courir plus que 200 mètres. Puis ça venait me chercher jusqu'en avant du ventre. Puis une grosse douleur. C'est
bien bizarre.
Fait que là, j'ai dit, OK, ça marche pas. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet. C'est pas tellement tout le temps la chose à faire. Mais en fait, ça m'a donné...
Vous êtes en train de mourir.
Ouais, c'est ça.
Ah, mais tant mieux. C'est cool, cool.
Fait que j'ai eu... Dans mes recherches, il y avait l'option de la fracture de stress au sacrum. Puis au début, j'étais comme « Ah, ça peut-tu vraiment être ça? » Puis là, je lisais les symptômes, je suis comme « Ah, ça ressemble pas mal à ce que j'ai. » J'en ai parlé avec mon chiro, puis lui, il s'est senti mal pour ça, mais j'étais comme « C'est pas de ta faute. » Mais il disait, tu sais, pour qu'il y ait une fracture de stress au sacrum, le sacrum, c'est tout l'os du bassin. Puis l'os du bassin, avant qu'il y ait une fracture de stress, c'est d'autres choses habituellement qui lâchent. Mm-hmm. C'est pas comme dans le pied ou dans le fémur, que c'est un os plus petit, que c'est plus normal, mettons, qu'il y a une fracture. Fait que lui, il pensait pas que c'était ça. Sauf que j'ai quand même parlé avec l'entraîneur-chef de la Fédération du Québec, puis il m'a fait venir à Québec pour un IRM. J'ai vu, cette journée-là, la physio de l'équipe du Québec, j'ai vu Charles Castonguay, puis j'ai vu la médecin pour avoir mon IRM. Puis la seule personne qui était convaincue que c'est une fracture de stress, c'est la médecin.
Ah ouais.
À ce moment-là, puis tu sais, là, je mets le blanc sur personne dans ça, mais juste, il y a personne qui pensait vraiment, que c'était ça.
C'est vraiment, c'est pas un suspect usuel, cette affaire-là. Ouais.
Mais elle, elle faisait son diagnostic, puis elle dit non, t'as une fracture de stress, je suis pas mal sûre.
Ouais.
Fait que je fais le IRM, puis ça a pris 12 heures, elle me rappelle. Bon, j'ai appris que les fractures de stress sont sur 4 grades, puis j'avais le 4e grade qui est le plus grave.
Mm-hmm.
C'était un minimum 3 mois d'arrêt. c'est la première fois que j'en parle.
Ouais.
Puis, c'était d'arrêt de tout.
Ouais.
J'ai un chien, je pouvais pas aller marcher mon chien.
Ouais.
Je pouvais rien faire. C'était repos arrêt total. Complet. Total, total.
Parce qu'une fracture de stress, c'est si tu la réagis, ben, si tu fais de quoi dessus, tu recommences à 1, là. Tu commences au jour 1, là, tu sais.
Oui, ouais, exactement.
Fait qu'il y a comme pas de chance à prendre, il n'y a pas d'affaire de revenir un peu plus tôt, là.
Ouais, non, c'est ça, parce que dans le fond, tu sais, la fracture, c'est une genre de crack dans ton os, mettons. Puis, faut vraiment que ça soit reconsolidé pour être sûr que c'est guéri, dans le fond. Parce que si c'est à moitié, parce qu'on l'entend aussi des fractures de stress reaction.
Ouais.
Fait qu'avant la fracture de stress.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, des fois, il y a des signaux pour ça. Puis moi, c'est ça l'affaire qui m'a frustrée là-dedans, c'est que du jour au lendemain, j'ai eu la douleur. Mais j'ai jamais eu de douleur avant ça,
ouais,
au niveau de mon bassin, pour me dire, hey, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas.
Mm-hmm.
La dernière douleur que j'avais eue, c'était mon tendon d'Achille. Fait ouais, que c'était...
T'avais aucune... C'était arrivé vraiment out of nowhere, là.
Ouais. Puis j'ai fait un gros training. Pendant le training, jamais. J'étais sûrement vraiment réchauffée. Puis juste, ça me demandait beaucoup sur mon corps cette journée-là. Puis c'est pendant le cool-down, j'avais changé mes souliers. Tu sais, je m'étais penchée probablement, quelque chose. Puis...
Après ça, t'es allé jouer là-dedans.
Avec le chiro. T'es
allé faire craquer le bassin par ton chiro de 4 fois en 3 semaines. C'est optimal. C'est ça. T'étais peut-être pas à 4 ouais, sur 4 quand t'étais avant d'aller là.
Ouais. Fait que ça a été de... Puis tu sais, à ce moment-là, je travaillais pas encore.
Ouais.
Fait que là, c'est bon, je fais quoi de ma vie?
Ouais, là, je peux rien, pas bouger. Là. Ouais.
Je fais quoi? Je suis rien, je peux rien faire. Je peux... Puis je suis quelqu'un qui aimait même pas les journées... J'avais pas beaucoup de journées de congé, j'aimais ouais, pas les journées de congé.
Je me rappelle, le premier podcast qu'on a fait ensemble, tu me disais, moi, j'aime juste ça courir. T'sais, j'aime ouais, ça courir, fait qu'aller une journée de congé, ça m'intéresse pas.
Non, ça c'est ça. Maintenant, j'ai une journée de congé par semaine, puis je l'ai... je suis contente de l'avoir. Ouais, ouais, ouais. Mais, fait que c'est ça, ça a été de comprendre aussi ça venait d'où, puis c'était un peu pour ça, en fait, ouais, que je t'ai écrit initialement, parce que... j'ai certaines personnes que j'entraîne que j'ai eu des discussions, puis je pense que c'est pas assez discuté, en fait. Là, ma fracture de stress a été causée par RED. Je sais pas si t'as déjà entendu.
Non, tu m'as écrit ça, puis j'ai cherché, puis ça me donnait... j'ai écrit RED Injury sur Google, puis ça me donnait les blessures des Reds de l'équipe de baseball. J'étais comme...
C'est pas ça.
Je suis pas ça, là.
Je vais pas massacrer avec mon super anglais, là, mais c'est Relative Energy Deficiency.
Ouais.
Donc, en gros, c'est que t'as pas assez de... Tu manges pas assez, mm-hmm, pour l'énergie que tu dépenses. Fait qu'il y a un déficit à ce niveau-là. Fait que la solution, avant d'arriver à ce que moi, où je suis arrivée, c'est soit que t'augmentes la quantité que tu manges ou tu diminues ton entraînement.
C'est... On plongeons absolument dans ça parce que, évidemment... Moi, je suis un grand défendeur de manger
oui,
à côté. On a reçu des nutritionnistes sur le podcast que c'est leur message. Leur message, c'est « mange plus que moins tout le temps mm-hmm. ». Est-ce que toi, tu avais cette pensée-là quand tu t'entraînais, la pensée de restriction de calories ou du moins d'essayer de contrôler ça pour des questions de gestion de poids, sachant qu'à course à pied, ça reste un facteur? T'avais-tu ça, toi, ou tu y pensais jamais?
Je mentirais si j'y pensais jamais. Je dirais pas que c'était fait par... que c'était voulu, en fait, de me restreindre. Je pense pas que je me restreignais, mais j'allais pas au-delà de... comme...
T'allais pas alimenter tes non, performances.
Puis c'est ça que... C'est un peu un message que je veux passer aussi. Tu sais, je recevais des commentaires. « Ah, t'as vraiment un corps de coureuse. Ah, mais c'est quoi un corps de coureuse? » Parce ouais, que au final, j'ai arrêté de courir pendant 4 mois. Ça ouais, m'a mené là, tu sais.
Un beau corps de coureuse.
C'est
mais...
ça.
Ouais.
Je pouvais même plus me définir comme une coureuse. Je courais pas, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est un peu ça aussi. Il n'y a pas de corps de coureuse. Puis je pense aussi que les corps de coureuse qu'on voit, les typiques, ça peut pas être sain à long terme.
Non. Impossible.
C'est...
Ben, les typiques de ce qu'on a en tête de c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que la culture est tellement loin. Puis c'est sûr que si tu fais du sport d'endurance, tu vas être mince.
Ouais.
Comme, ou tu seras pas, t'auras pas de surplus de poids. Là. Mm-hmm. Si tu cours pour du marathon, élite, il y a personne qui arrive là qui a 50 livres de plus que les autres. Là. Ça arrive juste pas. Mais j'ai quand même l'impression que on va en voir de plus en plus des corps différents si on réussit à briser cette mentalité-là. On va voir de plus en plus de corps différents élites, là, tu sais.
Oui.
J'ai vraiment l'impression. Tu sais, juste au triathlon, Christian Blumenfeld, là, le oui, champion du monde, là,
mm-hmm,
il a l'air de tout sauf d'un triathlète comme on les connaît, là.
Non,
vraiment, là, tu sais, ouais, il a comme un petit bide, il a des grosses cuisses, mais ouais, pas comme fit.
Ouais.
Il est juste comme... Il vient de tester... le VO2 le plus haut de l'histoire des VO2 testés, là, tu sais. Il gagne les championnats du monde, c'est lui le meilleur triathlète, mais il n'y a pas de corps de triathlon. Fait que dites-moi, c'est quoi le corps de triathlon? C'est le meilleur au monde, il n'y en a pas un, là, tu sais.
Exact, non, c'est sûr.
Fait que toi, tu n'avais pas la pensée de dire « faut que je sois la plus légère possible », mais tu n'avais pas non plus la pensée de « faut que je mange beaucoup avant mes trainings, pendant mes trainings, après mes trainings ». Tu pensais pas à ça nécessairement.
Ben, oui et non. C'est sûr que j'avais toujours eu de la misère à manger pendant, fait que ça m'aidait pas.
Ouais.
On le sait tous que quand tu reviens d'un gros training ou même d'un jog, t'as pas faim, ça coupe la faim. Mais faut que tu t'ailles par-dessus ça. Puis c'est vraiment là, tu sais, là, j'ai mis en place plus des stratégies pour ça, mais c'est vraiment de passer par-dessus ça. Puis il y avait mon côté perfectionniste aussi qui me nuit à ce niveau-là parce que là, j'avais en tête la qualification olympique puis je voulais tout contrôler.
Ouais.
Je voulais contrôler ce que je mangeais, je voulais avoir le meilleur sommeil possible. Je m'étais procuré la bague Oura. C'est correct?
Je l'ai perdu en main parce que je t'allais faire du vélo puis là, j'ai comme fouillé dans ma poche en arrière. En sortant ma main, je l'ai perdu, je m'en suis pas rendu compte tout de suite.
Oh non.
Quand je suis arrivé chez nous, j'ai fait « Ah, Chris, ma bague, genre 350 US, ça fait chier quand même. » Là. Sauf que après ça, j'ai dormi cette nuit-là, puis en me réveillant, j'avais pas ma bague, j'ai pas regardé mon score, mais j'ai fait « Wow! »
Tu te sentais genre, reposé.
« Fuck, man, j'ai dormi. Est-ce que je suis obligé d'avoir un sel qui me dit si j'ai bien ou pas bien dormi? » Pis là, j'ai fait, j'en avais pas besoin de cette petite bague-là, finalement. Qu'est-ce que j'essaie de contrôler? Genre, ça n'a pas de sens.
Ça change rien pour tout. Tu sais, ça fait juste créer de l'anxiété, selon moi.
Ouais, là, ben, quelqu'un qui a une bague, peut-être, quelqu'un qui s'est promené sur la promenade Champlain à Québec, qui a trouvé une bague, il a fait tabarnak.
Ouais, fait que c'était contrôlé. Je vais pas tomber malade. Ouais. C'était comme, je voulais tout le temps être on top tous les jours de l'année.
Mm-hmm.
Mais c'est impossible. Puis c'était la même chose, la nutrition est rentrée là-dedans. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça a jamais été diagnostiqué, puis je sais pas si c'est ça exactement, mais l'orthorexie, fait que de toujours vouloir bien manger, mettons. Mm-hmm. Puis étant donné que je suis végétarienne, ma nutritionniste me dit que c'est un régime qui est dense, mettons, quand tu manges, sauf que c'est pas assez calorique. Fait que c'est de jouer un peu aussi, de trouver des aliments plus caloriques, mettons, tu sais, des avocats, des noix, etc., des trucs comme ça. Mais c'est tout ça un peu qui a mené au fait que, sans m'en rendre compte, j'étais vraiment en sous-nutrition.
Ouais. C'est fou, ça, sans même t'en rendre compte. Même, c'est que t'es en sous-nutrition sans que activement tu veuilles l'être.
Exact. C'est fou, la balance, je perdais pas vraiment de poids. Ouais. T'sais, c'est ça aussi, le Red, t'as pas besoin d'avoir une perte de poids significative pour dire que c'est ça, parce que je pense que c'était David Jeker, en fait, qui en avait parlé, mais t'sais, ton poids, il va pas bouger tant que ça sur des courtes périodes nécessairement, puis t'as beau manger, je pense que ça m'avait marqué dans le temps, mais il avait dit, je sais pas, tu manges, j'ai aucune idée combien il avait dit, mais mettons 500 calories de plus que ce que tu dépenses, tu vas pas prendre du poids nécessairement. Fait que c'est pour ça que c'est un peu terrible les balances pour ça, puis de toujours regarder c'est quoi le chiffre sur la balance, parce qu'au final, ça se peut que ça t'indique rien pantoute finalement.
Mm-hmm. J'ai fait, je sais pas quand quoi va sortir, mais probablement que le podcast qu'on fait en ce moment va sortir après. J'ai fait un question-réponse avec Benoît Boulanger, qui était déjà venu sur le podcast avant, là. Puis lui, c'est ça son combat, là, vraiment, là, c'est de laisser complètement tomber la balance, puis d'enclencher, je sais que j'en parle souvent sur le podcast, mais personnellement, depuis que j'ai commencé à faire ça, ça a tout changé au niveau de mon énergie globale, de mes performances sur mon entraînement, de ma récupération. C'est que la façon avec laquelle je le vois, la nutrition, c'est si tu donnes assez de carburant à ton corps, tu vas être capable d'avoir une dépense calorifique plus grande pendant l'effort.
Mm-hmm.
Fait que le résultat va juste être que tu vas être meilleur, puis il n'y aura pas de prise de poids si c'est de ça que tu as peur. T'sais, ça n'existera pas. Même si tu ne devrais pas avoir peur de ça, tu devrais juste même pas penser à ça, mais il n'y en aura pas.
Mm-hmm.
Parce que tu vas juste mieux carburer ta performance, puis j'ai oublié tout le temps le mot, à chaque fois je veux dire le cercle radieux, je pense, qui est l'inverse du cercle vicieux.
OK.
Fait que c'est à chaque fois que, mettons, puis après, si tu finis ton training, puis t'as été fort parce que t'as bien mangé avant, Mais là, tu te sens bien, tu manges beaucoup parce que t'as faim, tu manges beaucoup puis tu récupères mieux. Le lendemain matin, t'as plus d'énergie, tu manges, t'as plus d'énergie et ton entraînement est mieux. Fait que là, ce cercle-là est juste comme vers le positif, au contraire de dire, bon, mais là, je restreins quelques affaires. OK, fait que ton training est un peu moins bon. Fait qu'après ça, t'as un petit peu moins faim, ta récupération est moins bonne. Puis là, c'est comme là, ça tourne dans l'autre sens.
Oui, puis si c'est fait de façon volontaire ou semi-volontaire, mais c'est toute la charge mentale aussi qui vient avec ça. Oui. C'est fait. Puis tu sais, au nombre d'heures d'entraînement qu'on fait pour des sportifs d'endurance, ça va jamais être un problème.
Ça sera jamais un problème. Ce sera jamais un problème. Ouais. C'est comme tu dis, là. Ce sera jamais un problème. Le corps va s'adapter, puis il va prendre sa forme optimale.
Ouais.
Le corps va prendre son poids optimal, son poids de peak performance. Ben, il l'appelle comme ça. Là. Peu importe c'est quoi ton poids de peak performance, si tu alimentes bien ta performance, ton corps va arriver à son poids de peak performance. Ça veut dire quoi? Chacun a son propre poids de peak performance. Puis Ben, il parle beaucoup du CrossFit. Il dit que maintenant, le monde qui arrive dans le CrossFit, parce que c'est son monde à lui, puis ça reste quand même de l'endurance aussi, là, les CrossFit Games et tout. Ouais. Il dit que là, on commence à avoir des corps vraiment différents qui gagnent les CrossFit Games parce que cette mentalité-là est enfin partie, tu sais.
C'est bien. Ouais. Je pense que de plus en plus, si on peut avoir des modèles, justement, comme tu dis, avec des corps différents, ça va aider à changer la mentalité. Puis, ouais.
Fait que là, qu'est-ce que tu fais activement avec ça en tête?
Une
fois que tu as eu, retournons un petit peu en chronologie là, avant de retourner dans le présent maintenant. Fait que là, tu as tes 3 mois à rien faire. Tu passes à travers de peine et de misère, j'imagine.
Oui. Ben, en fait, la première étape que j'ai fait, le premier signal, ça aurait été de perdre mes menstruations.
Mm-hmm.
Moi, j'avais un stérilet hormonal, fait que ça faisait 5 ans que j'avais pas de menstruation. Fait que j'ai pas pu avoir ce signal-là. Donc, ma recommandation pour toute athlète d'endurance féminine, ça serait d'être capable de tracker tes menstruations.
Mm-hmm.
Pour les hommes, en fait, j'ai appris que c'est les érections matinales.
Fait que si t'en as pas ou si t'en as trop?
Je pense le nombre. Faudrait que je regarde. Il y avait un site qu'on m'avait référé, mais je pense que si t'en...
C'est réduit, c'est ça. Parce que
moins de 3, une affaire de même, là.
Fait que si t'en as trop ou pas assez, là.
Arrête de questionner,
c'est quoi, là? Fait que si t'en as moins, c'est là que t'as un problème.
Oui.
C'est bon, parfait.
Ça diminue.
Parfait, on continue.
Fait que dans le fond, c'est un dérèglement hormonal.
Ouais, OK.
Autant chez l'homme que la femme. Ça arrive malheureusement plus chez la femme. Les fractures de stress. Donc, le premier signal que j'aurais pu avoir, c'est ça. Mais il y a aussi d'autres signaux. Par exemple, c'est sûr que le pourcentage de gras est plus faible souvent quand t'es sous-alimenté. Fait que avoir froid, par exemple. Puis,
avoir froid dans la vie, en général.
C'est tout le temps. Même, tu sais, on sortait de l'été, là, puis l'été, j'avais froid des fois, ouais. Là, puis, tu sais, on en riait un peu des fois avec mes proches. J'étais comme, t'étais tout petite, c'est normal. Mm-hmm. Mais comme, non, c'est pas normal.
De toujours avoir froid,
c'est
ouais.
C'est ça, ça devrait pas être normal. Puis, aussi les sauts d'humeur, puis tout, tu sais, être un peu plus dépressif. Ou, tu sais, je m'étais rendu compte que juste avant de me blesser, il n'y avait pas grand-chose qui me rendait heureuse. On dirait que j'étais rendue un robot. Je courais, je m'entraînais, je me reposais. Mais j'étais tout capable de dire que j'étais heureuse. Je pense que je ne l'étais pas. C'est ça qui est malheureux. Puis je pense que ça venait un peu du fait justement que
tu venais une vie qui te rendait correct. Tu sais comment? C'est correct.
Ouais. J'aimais ça courir, mais ça enlevait la passion que j'avais juste parce que j'essayais tellement d'avoir un objectif vraiment focus juste un sur le résultat final. Tu sais, on dit « enjoy the process », il n'y avait plus de ça. Là. C'était comme « je m'en vais à ma direction finale, puis c'est juste là que je regarde. »
Puis c'est drôle parce que ça me frappe vraiment comme quelqu'un qui est ultra passionné des sports en général. Tu sais, juste hier, tu avais un rendez-vous chez le médecin, puis là, on est sorti de la piscine, puis là, Sarah-Lee était là. Puis Sarah-Lee est comme moi, là, est une passionnée de sport comme vraiment beaucoup, tu sais. Puis j'avais l'impression qu'on aurait pu parler de sport pendant encore 2 heures avant que toi, tu t'en ailles à ton rendez-vous, que Sarah-Lee s'en aille pour son entraînement, puis que moi, je m'en aille pour faire whatever ce que j'avais à faire hier. Là. mais ouais, c'est ça. C'est comme, t'es une passionnée de sport, puis là, c'est comme, je suis plus vraiment passionnée dans le fond. Là. Ouais. Je fais juste, tu sais, comme, être un peu sur le pilote automatique pour faire ça.
Mais je pense que je le faisais plus pour moi. C'était plus comme, j'ai comme embarqué dans la vague de, faut que je me rende aux Olympiques, puis c'était juste ça, la course à pied maintenant. Ouais. C'est faut que je me rende aux Olympiques, faut que je fasse des entraînements difficiles.
Ouais.
Puis c'était tout le temps. Puis tout autour devait s'aligner avec mon projet de course à pied.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, c'est comme tous des symptômes, en fait, que... Puis, tu sais, c'est qu'on le sait pas nécessairement. Puis des fois, tu normalises un peu, puis tu te questionnes pas. Ou... Puis, tu sais... Puis encore là, tu sais... Puis là, c'est les réseaux sociaux, mais des fois, je vois des personnes sur les réseaux sociaux, puis il y a certains red flags qui sortent, puis c'est comme, je devrais-tu lui en parler? Je suis pas assez proche, tu sais, je fais tout ça. C'est encore, il y a une ligne grise, une zone grise. Puis je suis comme, ah, j'aimerais donc ça qu'elle arrive pas au point où je me suis rendue.
Mm-hmm.
J'aimerais ça le prévenir, mais est-ce que ça va mal sortir? T'sais? Puis c'est un peu pour ça que là, j'aimerais plus ça, en fait, faire un message comme plus général. Puis après, tu sais, mais je pense que c'est aussi, moi, il y avait beaucoup de déni. Fait que des fois, t'as beau l'entendre de quelqu'un d'autre, si tu l'as pas vécu, tu vas pas, tu l'accepteras
mais
pas.
Mais non, exact, suite, exact. Là, sauf comme... que quand même, ça peut mettre la puce à l'oreille, tu sais. Au moment où est-ce que toi... Puis tu sais, c'est peut-être... C'est vraiment pas tout le monde. Peut-être qu'il y a, que c'est les mêmes raisons pourquoi ils se blessent, là. Mais tu sais, au moment où est-ce que toi, tu t'es blessé, dans le 6 mois pendant, on dirait que ça m'a sauté dans la face le nombre d'athlètes élites et d'excellence qui sont blessés puis qui se sont pas rendus à leur objectif, là.
Ouais.
Genre, j'ai au moins... Puis là, juste dans mon algorithme à moi, des personnes que je suis, fait que même pas du monde qui me sont présentés, du monde que je suis personnellement, il y a au moins 5 filles, principalement des filles, qui ont été obligées d'abandonner un de leurs objectifs de course à pied à cause d'une blessure.
Mm-hmm.
Au moins, là.
Ouais.
C'est quand même du stock, là.
Ouais.
Fait que peut-être que quelqu'un va écouter ça, qui va éviter le truc, là, on l'espère, là.
Tant mieux, ouais, vraiment. Fait que oui, tu sais, la première étape, ça a été de changer mon stérilet pour être capable de suivre. Puis mais là, c'est très personnel, mais encore à ce jour, j'ai pas retrouvé mes menstruations. C'est pour dire à quel point c'était débalancé.
Ouais,
c'est terrible. Pour vrai, ça m'a choqué, puis ça m'a vraiment...
Il y a rien de moins naturel.
C'est ça.
Il y a rien qui est le plus loin de l'être humain qu'on était initialement. Ouais, là, t'sais.
Exactement.
À quel point il faut que tu y ailles pour de vrai, il faut que tu sois loin de hormonalement de la place où est-ce que t'es supposé être. Là.
Exact. Puis tu sais, c'était aussi... Ça m'a choqué à quel point je me suis rendue malade, si je peux dire. Mon corps était plus bien, là. Puis il m'envoyait plein de signaux, puis je les écoutais pas.
Ouais.
Fait que j'ai trouvé ça vraiment triste. Puis j'ai eu une dépression, là. J'ai perdu un peu mon identité aussi, comme je disais tantôt. Que
ouais, mais je peux comprendre. Là.
J'étais coureuse, puis c'est juste ça, je faisais de ma vie, là. Je pouvais plus rien faire. Fait que, tu sais, j'ai eu un retour au travail aussi en comptabilité. J'osais espérer que ça soit un peu ma solution, mais je pense que je l'ai caché un peu là-dedans, dans le sens que j'étais comme, ah ben, je cours plus, je vais travailler, puis c'est fini.
Ouais. Puis... Je vais ignorer cette énorme partie de moi qui existe depuis que je suis tout petite, mais là, ça existe plus, ça!
Fait que, à la place de me questionner, tu sais, puis là, au début, c'était rien. Après, j'étais capable de faire de la natation. C'est un peu, dans le fond, pour ça, j'ai commencé à nager. La seule chose que je pouvais faire, c'était nager avec un pool, puis je pouvais pas pousser du mur.
Ouais.
J'avais l'air d'une mamie, là.
Des virages en temps. Là, tu repars de moi.
Fait que ça a été ça, mais ça me sauvait, tu sais, ça me gardait saine d'esprit parce que j'étais habituée de bouger chaque jour, puis même des fois 2 fois par jour, 3 fois par jour avec la muscu. Puis Charles Castonguay m'a pris un peu sous son aile, puis c'est vraiment lui, je pense, qui m'a sauvée dans le sens que...
Il est
tellement fin! Il m'a fait des petits programmes de natation, puis à un moment donné, il m'a dit que sa copine a ri un peu parce que j'avais vraiment l'impression de faire des entraînements de course, mais en natation, puis à un moment donné, j'ai publié un story, puis il a trouvé ça drôle, puis sa blonde, elle a dit, effectivement, c'est des entraînements de course,
parce que Kat, elle nageait, on a nagé ensemble, elle nageait plus jeune, elle arrêtait un peu, puis elle a recommencé à l'université avec moi, là.
mais j'étais capable de me pousser un peu, puis de bouger, bon, pas tous les jours, Charles me donnait une journée de congé, puis c'est lui qui m'a appris initialement, on fait une journée de congé. Puis là, dans ce temps-là, j'étais encore en contact avec Reed, mon entraîneur de course. Puis il avait dit, bon, ben il sort quand tu vas revenir à la course, mais ça va être très progressif. Fait que les intervalles, l'intensité, ça va être sur le vélo. Puis là, j'étais comme, ah, je nage, je vais faire des intervalles sur le vélo, puis je vais revenir en course. Fait que 1+1+1 égale triathlon.
Exactement.
Fait qu'on dirait que...
C'est drôle parce que c'est Guillaume Rioux, l'autre ami commun avec Charles, qui... m'a envoyé un meme l'autre fois, puis c'est comment est-ce que les gens se rendent jusqu'au triathlon? Puis c'est genre, fais de la course, que la course devienne toute ton identité, blesse-toi, deviens triathlète.
Ah, c'est bon!
C'est juste ça, le mème. Là. J'ai fait, ah, c'est un peu ça, dans le fond.
Ouais, je suis soulagée, je suis pas tout seul.
Non, moi, c'est la même chose.
Fait que ça a été mon projet. Je suis comme, bon, ben, ça va être ça. Puis c'est de même que j'ai commencé.
Puis ça, ça date de quand, ça?
Ben, tu vois, la natation, j'ai commencé dès que je me suis blessée. Fait que je dirais en novembre, j'ai commencé à nager. Au début, c'était très grand-mère, comme je disais, là, je pouvais pas pousser du mur. Puis tranquillement, j'ai pu rajouter... Ah oui, parce qu'au début, tu sais, j'arrivais au mur, puis je repartais, mettons. Puis là, j'ai comme compris que j'étais capable de flipper quand même, mais pas pousser.
Ouais.
Fait qu'on dirait que je me sentais déjà plus nageuse.
Dans le vide, en plus. Ça, là, juste pour la parenthèse, là, il y a certaines affaires dans le monde de la natation qui te hantent pour toujours. Là. Puis une de ces affaires-là, tout le monde, quand on est bout de chou, tous les nageurs, quand on est bout de chou, des fois, c'est arrivé une fois à peu près tout le monde en compétition. Tu sais, au dos, t'arrives au dos, puis là, tu vois les drapeaux.
Ouais.
Puis là, tu comptes tes coups de bras quand t'es jeune. Moi, là, après ça, je les comptais plus, puis je savais j'étais où, là, tu sais. Mais tu comptes tes coups de bras, puis là, 1, 2, 3, 4, 5, à 5 coups de bras, tu tournes sur le ventre, puis là, tu tournes au moment que tu tournes sur le ventre. Puis c'est arrivé à tout le monde, notamment moi, de compter mes coups de bras, puis là, parce que t'étais un enfant, tu comptes pas ou tu comptes mal. Ou, tu tournes sur le ventre, tu fais ta pirouette, t'étires les jambes au maximum, puis y a pas de mur. Parce que t'as pas assez bien compté, puis là t'étais tiré de tout ton long, puis là tu fais « Ah, fuck », puis là tu recommences à nager.
Bon. C'est dur de repartir, pas d'élan.
Non seulement c'est dur, mais t'es disqualifié.
Ah,
parce que t'as pas de chômeur.
Ah, j'avoue, ah, c'est chier.
Fait que là t'es disqualifié, tu fais un temps de merde, t'es disqualifié. Puis après ça, en tout sérieux, là, j'ai repensé à ça toute ma carrière.
Okay.
Quand je faisais des virages au dos, pas à tous les virages, mais ça arrivait souvent en compétition que là, t'as comme un mauvais feeling parce que t'as un mauvais timing quand tu vois les drapeaux arriver, t'es comme en deux coups de bras, tourne sur le ventre, puis là, t'es un peu loin quand tu commences ton flip. Là, tu fais, oh, « Come on, tu es pas là, là, pas genre au championnat canadien, tout le monde est là,
c'est gênant.
Cave. » Là, tu pousses, mais bref, tu faisais ça,
oui.
Tu pouvais faire ça au moins.
Moi, c'était voulu, par contre.
Ouais, exact, c'est ça.
Fait que c'est ça, j'ai commencé à nager sous les programmes de Charles. Puis là, dans le fond, quand j'ai comme vraiment mis à terme, ben pas à terme, mais comme que j'ai vraiment voulu aller dans le triathlon, moi, je suis incapable de me coacher moi-même comme tu fais toi, parce que je me overtrainerais, c'est sûr.
Ah ouais, hein?
C'est sûr. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas, as-tu l'impression de trop en faire des fois ou?
Si j'ai l'impression de trop en faire. Non, j'ai pas l'impression de trop en faire. Mais j'ai déjà coaché quand même activement. Puis je pense que j'ai trop un respect pour la science de l'entraînement par les conversations que j'ai ici. Tu sais, je veux dire, je parle beaucoup à beaucoup de monde qui font beaucoup d'entraînement, là, tu sais, dans ce parcours-là. Puis je suis tellement intéressé. Tu sais, Charles, l'autre fois, il est venu chez nous pour faire une vidéo pour le Carb Boost que je t'ai envoyé. Puis, je veux dire, on est resté en corde de porte pendant 25 minutes, là. Il s'en allait, là. Puis là, c'est comme, ouais, mais telle affaire. Puis là, lui, il me sort une étude que là, il y a une nouvelle affaire et qu'il se met un élastique ses cuisses.
Il me l'a fait faire, ça.
C'est fou, là.
Ça il fait parle mal, de ça, là.
Fait que peut-être parce que le fait que je sais vraiment, ou du moins, je ressens vraiment les effets de l'adaptation. Puis ça me convainc que ce que je fais en ce moment, ça fonctionne.
OK.
Tu sais, je vois tellement l'amélioration claire quand j'ai la balance que j'ai en ce moment, là, l'espèce de sweet spot là, de récupération pour l'effort que je fais, que je vois l'amélioration, je vois le tu sais. Fait que c'est peut-être pour ça, puis je pense pas que j'en fais trop. La semaine passée, c'était ma plus grosse semaine de mon bloc, mettons. Mm-hmm. Je me suis planifié grossièrement un bloc avec, tu sais, comme là... En fait, je l'ai planifié pour que, enfin, cette semaine, j'étais à Montréal, fait que je pouvais pas continuer à loader. Là. Fait que cette semaine, je sois plus tranquille.
Ouais.
Fait que j'ai quand même planifié avec ma vie. Mais ouais, tu sais, fait que je pense pas que j'en fais trop, là. Mais ça se pourrait que cet été, j'en fasse beaucoup, là.
Ouais.
Ouais, quand je puisse sortir dehors avec le bike et tout.
Ben, si t'es capable d'avoir cette sagesse-là, c'est bien.
Mais c'est juste pour ma première saison, comme je te disais, parce que j'ai vraiment envie de voir pour le triathlon, voir qu'est-ce que c'est.
Mm-hmm.
Parce que comme je disais, peut-être que je vais faire mon premier, je vais détester ça. Ça se peut que ça arrive, genre, je sais pas. Sauf que là, je veux comme jouer avec la patente. Ouais. Je veux comme essayer de jouer avec les paramètres, voir c'est quoi que j'aime dans le fond, c'est quoi que j'aime pas. Pour l'instant, j'aime pas mal tout. J'ai découvert que j'ai vraiment une chance, I guess, d'adorer le trainer.
Oui, c'est ça que tu
fait que je peux en faire, là, je peux en faire, ça n'a pas de sens comment j'aime ça, genre j'adore ça. Fait que ça, je pense que c'est une chance, puis j'ai découvert ça. Fait que maintenant, je sais que dans une préparation, je vais pouvoir faire des entraînements super spécifiques sur le bike, parce que tu peux pas vraiment faire des entraînements ultra spécifiques quand tu roules dans la rue avec des chars ou quoi que ce soit, là, tu sais. Fait que j'ai comme ça, là, je découvre des affaires dans le fond. Bref, ça, c'est ma parenthèse sur comment moi, en ce moment, je veux gérer mon été. Oui. Mais toi, tu dis que ça prenait un coach absolument.
Ben c'est que moi, je sais que j'en ferais trop.
Ouais.
Je suis pas capable de... Tu sais, déjà là, mettons, j'ai mes entraînements de ma coach, puis tu sais, je voudrais en faire plus.
Ouais, hein. Je comprends.
Mais je suis comme, je respecte, puis...
Ouais.
Tu sais, déjà, je suis presque au nombre d'heures d'entraînement que je faisais en course à pied. Puis c'est fou, la différence aussi, là. Justement, que tu peux dire la même chose, mais... Comment que t'es vraiment moins brisé en faisant trois
c'est
sports
fou.
Que la
c'est fou. Logique, moi, c'est tellement... Moi, c'est vraiment une révélation énorme. Parce que j'ai fait la même chose en natation. De faire 20 heures par semaine de natation, je l'ai fait ça, puis... C'est de l'overtraining quand même, là. J'étais pété parce que c'est les mêmes muscles tout le temps, c'est la même zone, les mêmes affaires. Mais là, les zones sont tellement différentes.
Mm-hmm.
Dans les trois sports, c'est trois choses complètement différentes. Qui ensemble font genre, on dirait, un athlète complet.
Ouais.
Puis, des fois, je fais des journées à 3h30 d'entraînement. Mettons, je fais une heure dans l'eau, 1h30 sur le bike, 1 heure de course. J'ai l'impression d'être aussi pété que si j'avais fait un 15 kilos de course le matin.
Ouais, l'équivalent.
J'ai l'impression d'avoir autant de fatigue accumulée, mais je viens de faire 3h30 à place de 1h15. Puis je le sens vraiment comme ça.
Ben, c'est fou. Puis on dirait aussi que la récupération est vraiment plus rapide. Puis mentalement aussi, là, c'est
mentalement,
une charge.
Ça change
tu changes tout. Comme tu dis, tu as trois sports. Là, fait que ça change vraiment.
Ça change vraiment, vraiment.
Fait que c'est ça. C'est mon projet pour l'été.
Ton projet pour l'été. Fait que là, c'est quoi que tu voudrais faire?
Je fais un demi-Ironman.
Quand?
En juillet.
Où?
À Muscle Man, dans l'État de New York.
Okay.
Ouais.
Fait que là, c'est réglé, le billet est acheté.
Non.
Non, OK. L'inscription est-il achetée?
Non, parce que là, j'ai commencé en continu ma course hier.
Mm-hmm.
Fait que j'attendais un peu de rentrer une course en continu, des intervalles un petit peu pour être sûr que j'avais pas de mauvaise surprise. On s'entend que ça, c'est la bannière Ironman. Fait que ça va me coûter comme 400 ou 500 $ je pense. Là. Fait que je vais être sûr.
Je te conseille d'attendre un petit moment.
C'est ça. Être sûr que mon corps est correct. Bible, Fait que c'est ça. Fait que c'est pas acheté, mais c'est mon projet jusqu'en juillet. Là.
Je trouve que, tu sais, mettons, pour un demi... Moi, la distance demi, c'est comme... On dirait que c'est je suis obsédé, là. Puis j'en ai pas jamais fait tant. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air. J'ai aucune idée. Mais l'entraînement pour le demi... Puis le monde, ils vont m'entendre radoter. Puis en même temps, je m'en fous si vous m'écoutez. Si vous écoutez le podcast, si vous aimez ça, ça veut dire. La distance est vraiment parfaite, je trouve, pour ce que moi, je veux y retrouver. Ou est-ce que... Si, tu sais, j'ai peut-être, dans les grosses semaines, je vais peut-être avoir 25 heures à mettre parce que j'ai fait ma vie autour de ça, dans le sens où mes business, je peux les gérer un peu quand je veux. Il y a des semaines que je peux moins en faire, d'autres que je peux plus en faire. J'ai comme cette latitude-là.
Mm-hmm.
Mais 25 heures, c'est vraiment assez pour faire un bon demi-Ironman.
Ah, je pense que oui, totalement.
Mais c'est vraiment pas assez pour faire un bon Ironman. C'est assez pour faire un Ironman.
Oui,
mais c'est pas assez pour faire un bon Ironman.
Ouais.
Ou est-ce que des gens comme nous peuvent considérer comme un bon Ironman, mettons, tu sais.
Ouais.
Mais en 25 heures, tu peux vraiment faire un excellent demi-Ironman vite, tu sais.
Ouais.
Puis on dirait que moi, c'est ça. Puis si tu fais 25 heures, tu dépasses pas 80 kilos de course.
Non.
Puis ça fait une grosse différence. 80 kilos de course, c'est vraiment pas beaucoup de course comparativement à 198.
Ouais.
Oui. Puis ça protège un petit peu le corps, j'ai l'impression.
Oui.
Parce que la course, c'est de loin celui qui coûte le plus cher.
Ah ouais, avec l'impact
de loin,
et tout.
Là.
Oh, ouais. Ouais. Puis, tu dis 25 heures aussi, puis c'est ma coach qui m'avait fait considérer ça. Surtout pour le triathlon, c'est... Mettons que tu dis, je veux mettre 25 heures d'entraînement, mais c'est pas 25 heures de temps de vie. Tu sais, faut que tu te rendes à la piscine, faut que tu te rendes à tes lieux d'entraînement, puis tout. Puis faut que tu prépares des fois ta bouffe, tu sais, des fois c'est de prévoir à l'avance, fait que c'est pour ça qu'elle dit c'est pas fait pour tout le monde non plus, là, mettons Ironman ou des trucs de même, parce que faut que tu aies le temps de le faire, puis faut que tu aies le temps de récupérer de tout.
Ah, exact, exact. C'est, moi, c'est juste que. C'est ça, moi, c'est ça que je veux faire dans ma vie.
Ben oui.
C'est dans le sens où c'est tellement une passion pour moi, où est-ce que j'ai fait plein de choix qui font que je suis capable de faire ça. T'sais. Puis je dis pas tout le monde, vous êtes faible si vous faites pas 25 heures d'entraînement, parce que. Ça serait vraiment con de penser comme ça, parce que moi, j'ai fait plein de choix que les gens sont veulent pas faire, pas qu'ils sont pas prêts à faire. Ils choisissent juste de faire autre chose que ça, tu sais.
Oui.
Mais moi, c'est ça que je veux faire. Ça me fait triper, genre, ça me passionne vraiment beaucoup.
Mm-hmm.
Mais c'est cool. Fait que là, t'as commencé ce programme-là, puis demi-Ironman, puis est-ce que t'as une idée de où tu t'en vas dans le sport, où tu te dis, là, c'est ça pour maintenant. Avec, on verra si j'aime ça, on verra qu'est-ce qui se passe, on verra comment ça va cet été. Puis est-ce qu'au fond de toi, t'as encore un PB marathon en tête? Est-ce que t'as encore ces affaires-là que tu dis « Ah, peut-être un jour » ou ben c'est comme t'as mis ça dans un tiroir puis c'est fini?
Ben, je suis un peu comme toi. J'en ai pas fait moi non plus. J'ai déjà fait du triathlon, mais j'ai jamais fait cette distance-là. Puis ça reste... Puis toi, t'as fait l'ultra, mettons, mais c'est moi, là... Dans mes dernières années, mettons, le plus long d'effort que je faisais en compétition, c'était 2h30.
Ouais.
Là, un demi-Ironman, ça va être beaucoup plus que plus ça. Que là. Ça. Fait que j'ai hâte de voir. T'sais, moi, j'ai toujours aimé l'endurance. Fait que je crache pas sur un Ironman complet parce que moi, je pense que... Y penser, je suis comme « Ah, ça serait nice de s'entraîner pour ça. » Moi, ça me... Je pense que j'aimerais ça. En ce moment, mettons, comment je le vois, je verrais mon demi-Ironman cet été. Question aussi de me remettre en forme générale, puis possiblement peut-être un marathon à l'automne. Tu sais, j'avais entendu aussi, mettons, ça te met full en forme un demi-Ironman, puis après t'enlèves presque le vélo puis la natation, mais le but aussi ça serait de garder du cross-training, puis de courir beaucoup moins que ce que je faisais, faire un marathon, puis après est-ce que je m'entraînerais pour Ironman l'été prochain. Je sais
peut-être,
pas.
Peut-être, là. Ouais. À voir étape par étape.
Ouais, mettons. Exactement. Okay. Exact.
Puis au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que tu as pris comme moyen pour éviter de retomber dans. Évidemment, tu as descendu le nombre d'heures d'entraînement, mais as-tu fait quelque chose pour augmenter l'alimentation aussi?
Ouais. Oui. Dans le fond, moi, j'avais tendance des fois à aller courir à jeun le matin parce que j'étais capable. J'étais capable de le faire.
Ouais.
J'étais capable de partir 20 km, pas bon manger.
C'est pas bon, ça.
C'est vraiment pas bon.
C'est pas bon, ça.
Fait que là...
On en a parlé en plus dans le podcast qui va sortir dans,
c'est bon,
dans une semaine. Ben, il y a quelqu'un qui a posé cette question-là. Puis, ben, essentiellement, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est que ça peut permettre d'utiliser un petit peu mieux les gras comme énergie, mais pour le nombre de points négatifs liés à ça, ça vaut pas la peine de le faire.
Non, vraiment pas.
Ouais.
Puis, tu sais... Encore là, en principe, tu veux habituer ton corps aussi à digérer à l'effort. Fait que c'est juste positif de manger avant d'aller t'entraîner pour cet aspect-là aussi.
Hey, 20 kilos à jeun, là.
Ah, j'ai fait quand même souvent, là. Ouais.
Même pour la récupération, c'est horrible.
Tu sais, je mangeais pas pendant non plus. Là.
Ouais, c'est ça. C'est horrible, ça.
Fait que ça, je mange toujours le matin avant mes entraînements, même si je me lève puis j'ai pas faim. Bon, en piscine, je suis incapable, par contre, faudrait peut-être que j'incorpore plus comme du type... Épica dans les bouteilles, parce que des gels sur le bord de la piscine, j'ai jamais vu personne faire ça.
Non, il y a personne qui fait ça. Mais Épica, c'était ça, le thinking derrière, là. Moi, ça vient de la natation, l'idée vient de ça, là,
d'avoir une bouteille, là. Puis même sur le vélo, des fois, tu sais, je me dis, quand t'es en position aéro, gérer un gel, puis tout, ça doit pas être très le fun.
Épica, puis tu boostes avec du carb boost,
t'as voilà. Fait que ça, puis ma coach, parce que ma coach, dans le fond, je l'ai choisie, entre autres, elle avait déjà vécu une fracture de stress, ben deux en fait, puis elle s'est dit, moi je veux plus revivre ça, puis je veux comprendre pourquoi, puis c'est quoi les changements que je veux faire, fait qu'elle, c'est comme un peu mon mentor à ce niveau-là, puis on a intégré le shake de protéines après l'entraînement dans la douche.
Dans la douche?
Fait que...
Tout de suite après.
Ouais, t'es sûr que t'as des calories qui sont rentrées tout directement suite. Après l'entraînement. Fait que...
Le shake, juste un scoop de prot ou genre dans un smoothie ou...
Ça va dépendre, comment je me suis alimentée. si j'ai pas eu d'alimentation pendant mon entraînement, par exemple, en piscine, je vais peut-être rajouter des fois du lait, mettons, de soya ou peu importe, ou du sirop d'érable, mettons, mm-hmm. ou essayer de comme compléter ça, ou juste une banane aussi, des fois, que je vais prendre avec mon shake. Mais l'important, dans le fond, c'est calories directement après l'entraînement, juste pour dire à ton corps, OK, maintenant, tu peux commencer la récupération. Puis de manger plus souvent aussi, parce que moi, j'avais tendance à manger à mes repas, puis pas souvent des collations. Fait que ça, c'était quelque chose que je faisais pas. Et l'autre chose aussi, c'est... j'adore ma mère et tout, puis c'était pas en contexte d'athlète, mais... Quand j'étais jeune, ma mère, mettons, à 5 heures, quand j'avais faim, elle me disait « Ben, mange pas parce que je veux que t'aies faim pour le souper. Mm-hmm. » Mais moi, j'avais comme gardé ça un peu en tête. Puis j'avais pas tendance à manger quand j'étais proche de mes repas, même si j'avais faim. Puis je me disais « Bon, je vais avoir faim pour mon repas. » Puis j'ai toujours aimé avoir l'appétit quand je mange. Puis un peu avant de me blesser, j'avais commencé à intégrer un peu plus à manger, même si j'avais faim. Parce que j'avais eu une rencontre avec ma nutritionniste. Ça, c'est un autre flag aussi. Je me réveillais à 4 heures du matin. Affamée. Au point que je me rendormais pas, là.
T'sais, quand tu parles de ne pas écouter les signaux que ton corps t'envoie, là, c'est comment? Non, ça doit être normal.
C'est ça. Ben, tu sais, j'avais quand même rencontré la nutritionniste, mais le mal était fait à ce niveau-là. C'était peut-être 2 semaines avant que je me blesse. Ouais, fait que là, j'avais commencé à manger plus et tout, mais c'est ça, c'était trop tard. Fait que c'est ça. Juste de plus manger, plus souvent. Puis, je te dirais, c'est pas mal ça en général.
Ben, il disait... Puis là, le monde qui écoute, ils vont entendre Ben en parler. Le fait que moi, je te dis ça à toi, ça a un peu d'importance pour les gens qui écoutent. Mais il disait, l'objectif, c'est de pas perdre le signal de faim. Mais c'est d'en être conscient, de manger, d'en être conscient, de faire « OK, ici, c'est mon signal de satiété. » Puis de le dépasser en sachant il est où. Comme ça, tu le perds jamais. Tu es juste conscient tout le temps de faire « OK, non, là, techniquement, j'arrêterai de manger. » Mais là, ça va être... les petites bouchées supplémentaires pour dépasser ce signal-là, pour être sûr d'en avoir assez. Là.
OK.
Mais au moins, tu le perds pas.
C'est un bon conseil.
C'était ça son conseil.
Oui. Parce que c'est ça aussi l'affaire, c'est qu'on entend tellement tout des trucs. Ah, un truc qui m'a fait aussi capoter. Quand je suis retournée au travail, il y avait c'était pour une compagnie pharmaceutique, puis il y avait un médecin qui avait fait une conférence juste avant que moi je sois embauchée. Puis il avait été dire « jeûne intermittent, c'est bon, faites ça ». Puis là, il y avait plein de monde au travail qui le faisait. Puis j'ai même une de mes athlètes qui m'est arrivée avec ça. Puis c'est un peu après ça que je t'ai contactée parce qu'elle me dit « Ah, mais on entend que c'est vraiment bon le jeûne intermittent. » Je suis comme « Peut-être, mais pas pour des athlètes. Tu veux pas faire ça. »
Exactement. Lui. On en parle aussi avec Ben de ça. C'est vrai parce que... Puis ça, c'est intéressant. Puis je vois même... On peut même élaborer un petit peu là-dessus parce que j'y ai repensé après la conversation que j'ai eue avec Ben. Puis... la question que j'ai posée, puis j'ai adoré sa réponse, c'est qu'on sait maintenant le VO2 max, c'est la chose qui est le meilleur indicateur pour la longévité.
OK.
Ça, c'est la chose principale, mettons. Toutes les autres facteurs, est-ce que tu fumes des cigarettes, est-ce que tu as des mauvaises habitudes de vie, tout ça, c'est moins représentatif de... l'espérance de vie que le VO2 max.
OK, avec longévité d'un humain, là, d'un pas humain. D'un athlète.
Longévité d'un humain. Okay. D'un humain. Puis, autre chose qu'on entend, c'est que le jeûne intermittent, ça a été prouvé, c'est bon pour ralentir le vieillissement des cellules. Ouais. Fait que là, moi, j'ai proposé à Ben, j'ai dit, ouais, mais on sait que le jeûne intermittent, c'est bon pour ralentir les cellules. Qu'est-ce qu'on fait avec la nutrition, comme tu me parles, tu sais, de dire, ben là, fuck le jeûne intermittent, on mange le matin, on mange tout le temps, on mange le plus qu'on peut. Il dit, considérant que le VO2 max, c'est le meilleur déterminant de ça, on s'en crisse du vieillissement des cellules si tu améliores ton VO2 max. Mm-hmm. Si tu restes en forme, si tu alimentes ta performance, le jeûne intermittent n'a rien à voir versus être en forme, être en santé, avoir un bon VO2 max.
Mm-hmm.
Puis ça fait du sens quand tu l'expliques comme ça. Puis comme tu dis, peut-être le jeûne intermittent... pas si tu t'entraînes 10 heures par semaine. Ça fait pas de sens, là.
Non.
Ça fait pas de sens.
Parce que ce que j'ai de la misère à comprendre aussi, puis là, tu sais, je suis pas scientifique, je suis pas nutritionniste, rien, mais tu sais, on a toujours entendu, par exemple, des régimes, tu sais, des gens qui font des régimes, ils se privent, mm-hmm. puis là, à un certain point, ben là, ça marche plus, puis ils recommencent à manger, mais là, ils reprennent plein de poids parce que le corps a de la misère a peur, en fait, de manquer de nutriments.
Remanquer de nutriments,
Fait qu'il va faire des réserves. Mais je me dis, c'est pas le même principe pour le jeûne aussi.
Peut-être. Au niveau des habitudes d'alimentation, c'est sûr c'est pas bon. C'est sûr c'est pas bon. Parce qu'en plus de ça, potentiellement, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a le craving qui va venir. Les gros cravings, si tu te prives jusqu'à 1h PM, tes deux repas vont être énormes, ça va être disproportionné, ton énergie va être répartie, tu croches dans ta journée. C'est sûr, c'est pas bon pour des athlètes. Peut-être pour quelqu'un qui est vraiment sédentaire, là, mettons.
Mais encore, moi, je me lève puis j'ai très faim, fait que je pourrais pas attendre.
Mais se lever à 4 heures puis être affamé, c'est un énorme flag, là.
Ouais.
Moi, ce matin, je me suis levé puis j'avais vraiment faim, puis je sais, là, tu sais... C'est compliqué quand même quand t'es pas chez vous. En ce moment, tu sais, j'étais à Montréal, j'essaie de m'entraîner. Hier, je me suis entraîné 2 heures. J'ai couru avant qu'on se voit. J'ai nagé 3000 mètres. Puis j'étais comme en 2 affaires. Je suis venu ici au studio. J'avais un meeting là. J'ai mangé un pokéball au milieu de la journée. J'étais arrivé chez ma soeur où est-ce que je dormais. J'ai comme pas vraiment soupé. Un matin, je me suis levé. J'avais faim. Puis j'étais comme c'était vraiment sous-optimal ce que j'étais en train de faire là en ce moment. Il faut pas que je fasse ça trop longtemps.
Non, c'est ça. C'est important la nutrition, vraiment. Là. C'est la clé là, pour l'athlète, là, vraiment.
T'as-tu eu la chance d'essayer le Carb Boost? Je te mets en spot. Tu l'as pas encore essayé?
Je vais le faire en fin de semaine. C'est mon premier brick. T'as sûrement déjà fait ça, là. Mais...
Non, pas encore. Non? Mais ça va arriver bientôt.
Fait que j'ai ça en fin de semaine. Fait que je me suis dit, bon, là. C'est, dans le fond, ma stratégie pour l'Ironman, le demi-Ironman, ça serait d'avoir Upica dans mes bouteilles pour le vélo, puis possiblement des gels pour la course. Ça serait comme mon best, là, qui est le plus facile que je pense. Parce que moi, j'étais habituée aussi à la fin en marathon de comme avoir rien sur moi vu que j'avais des bouteilles. Fait que là, je me vois mal courir avec des bouteilles.
Puis sur un demi-marathon... tu peux avoir assez de gel pour ton demi-marathon.
C'est ça.
Moi, le marathon de Québec, je l'ai fait. J'ai amené tous mes gels avec moi. Puis j'avais des mortaines, mais genre, j'avais trop de gel. Là. Je prenais un mortaine à chaque 20 minutes. Fait que genre, j'avais une ceinture. J'avais ben trop de gel au début. Genre, après 1 heure, c'est correct parce que j'en avais déjà enlevé 4. Genre, j'en avais pris un au début, puis 3 pendant. Mais au début, là, mon premier kilo, j'avais une ceinture de gel qui brassait de même. J'avais, je pense, j'avais 12 gels mortaines.
C'est énorme.
Autour de moi, puis dans mes poches.
T'as-tu tout pris les 12?
J'en ai pris un à chaque 20 minutes. Puis sinon, je prenais du Gatorade à chaque fois que j'arrivais au... Puis comme de fait, je suis resté... C'est vraiment parce que je n'étais pas entraîné pour un marathon. Là. J'avais pas fait de bloc de spécifique marathon. J'avais fait 60 kilos de bike la veille. Mais c'est les jambes qui ont lâché.
Okay.
Mais l'énergie était encore top. Là. T'sais, quand je me rappelle, on s'est parlé de mon arrivée au marathon d'Ottawa. Où est-ce que j'étais comme mêlé, puis je voyais mal. Puis il y a un gars avec une chaise roulante qui est venu tellement j'étais désorienté, puis je venais de pisser dessus, puis ça avait tout pris pour faire 2h49. Là, j'ai fait 2h48, j'étais arrivé, je tapais dans la main des gars, je parlais à tout le monde, puis j'étais encore vraiment top shape, tu sais. Puis je suis sûr, c'est ça, là. Un gel mortel à chaque 20 minutes, plus du Gatorade à chaque fois qu'il y en avait. Mais tu vas voir, tout ça pour dire, je voulais pas te mettre on the spot, puis peut-être t'aimeras pas ça, mais ces jours-ci, je le fais, puis c'est vraiment facile. Un scoop d'endurance.
Okay.
2 scoops de Carb Boost.
Okay.
Dans 500 à 650 ml. Puis, t'as 79 grammes par bouteille. Je prends un gel en plus. J'amène ça à comme 104 grammes à l'heure. Puis, ça descend vraiment bien.
OK.
Tu me le diras si ça fonctionne, là, mais ça passe vraiment, vraiment bien.
OK. Ben, c'est intéressant parce que la stratégie avec ma coach, c'est ça un peu aussi. On veut comme loader la nutrition sur le vélo. Ouais. Pour que justement tu aies du jeu en course à pied, c'est plus difficile à.
Faut que tu overfuel le vélo quasiment là, parce que ça brasse pas tant que ça. Puis,
Non, c'est ça. Puis pour vrai, je le vois en ce moment, je suis capable de prendre tellement plus que je faisais en course à pied. Fait que peut-être ça va m'aider aussi pour la course hein, éventuellement. Peut-être que je vais m'entraîner un peu sans que ça soit à l'extrême pour la course.
Très cool. Merci beaucoup d'être venu, de m'avoir écrit. C'est vraiment apprécié. C'est
un super podcast. Merci de m'avoir permis de passer mon message. Peut-être aider quelques personnes.
Mais c'est vraiment drôle. Puis là, je repars pas pour 10 minutes, là, mais parce que ça, c'est un peu le message de ce podcast-là. Au final, ce que je réalise, là, ce que je commence à réaliser, puis l'idée, c'était pas de faire un podcast Upica pour pousser la nutrition parce que Upica, c'est un brand de nutrition. Puis c'était vraiment pas ça le concept à la base. Je veux juste avoir des conversations sur des sujets que j'aime avec des gens que j'aime, puis des geeks de sport qui sont tripeux aussi comme moi. Mais c'est le message qui revient. C'est ça qui revient. C'est ça qu'on réalise maintenant. Que comme, hey, on était dans le champ.
Vraiment.
Collectivement, on a été dans le champ. Il y avait des climats toxiques dans tous les sports qui ont mené à une culture de restriction.
Mm.
Puis on était dans le champ.
Mm.
Puis là, les meilleurs au monde, c'est les Norvégiens qui, eux, sont à 120 jusqu'à, en ce moment, sont en train d'essayer 160 grammes de carbs à l'heure.
C'est malade.
Sont genre, c'est ça, c'est les meilleurs au monde, c'est eux.
Mm.
Puis tout le reste du monde, on avait des affaires comme les camps d'entraînement Nike, où est-ce que t'avais l'espèce de malade, là, Salazar, là, qui abusait le monde, qui disait aux filles de se peser tout le temps. Quand on était dans le champ depuis le début. C'est fou, là.
Puis tu sais, c'est peut-être aussi... OK, t'es plus petit, tu performes, je sais pas, moi, un an.
Ouais.
Mais si tu veux être un athlète à long terme, ça va jamais marcher. Là. Jamais.
Cool, merci beaucoup.
Merci.
C'était super.